19h05 dans 4 secondes précisément. Vous savez, la bonne nouvelle de savoir que la saison va redébuter, va pas redébuter, mais plutôt débuter le 13, donc mercredi prochain, qui reste à peine 5 dodo. Eh bien, ça veut dire aussi que ça sera le retour de la collaboration entre Cogeco Média et la presse avec cette balado sortie de zone qui a connu quand même pas mal de succès, où on s'est crêpé le chignon de fois de temps en temps, mais surtout, on a jasé en long et en large des activités du Canadien de Montréal. Il sera l'animateur de cette balado sortie de zone. Jérémy Philosette avec nous. Salut, Philo.
Salut.
Allons voir maintenant du côté de la presse. Philippe Quentin qui est là. Salut, Philippe.
Salut, Jérémy. Salut aux deux, Jérémy.
Salut. The Jeremy's. Voilà. Et Guillaume Lefrançois qui est avec nous. Salut, Guillaume.
Salut, messieurs.
Bon, hey, les gars, dans un premier temps, on va débuter ça en force. Ça sera le retour, donc, de cette balado sortie de zone. Vous connaissez le principe. Tout le monde va sur les différents réseaux sociaux, sur notre plateforme, et on sera en mesure d'avoir ce balado. La seule chose, on va débuter. Déjà, il y a 6 joueurs des Stars de Dallas qui sont atteints de la COVID-19. Philo, je te laisse débuter avec ça.
Ouais, écoute, on manquera pas de sujet, mais ça, il fallait s'y attendre. Tu sais, je veux dire, on a vu toutes les autres ligues ont eu, à un moment donné, des petites éclosions. Sauf qu'ils ont tous trouvé le moyen d'aller vers l'avant. Moi, l'affaire que je crains un peu, c'est qu'on se rende à la fin de la saison puis qu'il y a des équipes, malheureusement, qui seront pas en moyen de disputer les 56 matchs réglementaires. Parce que, on le voit, le calendrier est tellement chargé, ça va être difficile de déplacer des matchs. Écoute, on peut pas jouer des programmes doubles comme au baseball. Donc, à un moment donné, on risque de manquer de temps s'il y a des équipes où, justement, les éclosions s'éternisent. Et je me demande si, justement, on va utiliser le même genre de système comme la MLS, à un moment donné, a dit, ben finalement, c'est pas le nombre de points qui va vous donner accès aux séries, c'est le nombre de points par match disputé.
On s'est donné un coussin quand même. Philippe, ouais. Je veux t'entendre là-dessus. Vas-y, Guillaume, tu voulais parler?
J'allais dire, en fait, que justement, ce dont Jérémy parle, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a un précédent, c'est-à-dire cet été même, avec la reprise des activités, le tournoi éliminatoire qu'on a vu cet été, ça a été fait sur la base des pourcentages de points, justement, parce que quand la saison avait pris fin au mois de mars, toutes les équipes n'avaient pas joué le même nombre de matchs. Donc, sachant comment fonctionne la Ligue nationale, donc s'il y a un précédent qui existe, si ça a déjà été fait, ça risque d'être plus facile, et effectivement, si on arrive au mois de mai puis qu'il y a une équipe qui a joué 51 matchs au lieu de 56 et qu'il y a des déséquilibres comme ça, comme ça a déjà été fait, d'après moi, la Ligue va simplement s'adapter et faire comme la MLS a fait.
Et Philippe, de ton côté?
Ben, on remettra pas le dentifrice dans le tube, là, mais tout ça illustre, à mon avis, la décision vraiment incompréhensible, à mon avis, de la Ligue nationale de hockey de recommencer à jouer au milieu du mois de janvier. J'arrive pas à comprendre la nécessité absolue de vouloir jouer 56 matchs. On a eu deux saisons durant lesquelles il y a eu des lockouts là, au cours des dernières années. Dans les deux cas, on a joué 48 matchs. Ça a été une très bonne saison. On aurait très bien pu attendre, comme ça a été le cas lors de ces occasions-là, pour des raisons de relations de travail, attendre le mois de janvier. Parce que là, le risque, il est immense. Depuis que la pandémie a éclaté en mars dernier, jamais, jamais, jamais la situation a été aussi pire qu'aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est 4000 morts par jour, des dizaines de milliers de nouveaux cas. Au Québec, c'est tellement grave qu'on commence demain un couvre-feu pendant un mois. En Ontario, aujourd'hui, le premier ministre Doug Ford a dit qu'il allait présenter des scénarios, là, probablement au cours des prochaines heures ou des prochains jours. Il dit, les gens, là, préparez-vous, les cheveux vont vous dresser sur la tête. Ça va mal. Et ça, c'est le moment que choisit la Ligue nationale de hockey pour amorcer son calendrier. J'en viens pas, je trouve ça aberrant. Puis là, je regarde la situation qui commence aujourd'hui. Ben, à quoi vouliez-vous vous attendre? C'est inévitable que des choses comme celle-là vont arriver. Puis si on croit que c'est simplement deux équipes qui vont être touchées, on se trompe.
Non, il va y en avoir plusieurs, ça, c'est sûr. Mais Philippe, la NFL le fait, le baseball majeur le fait, la NBA le fait présentement, et pourquoi la Ligue nationale ne le ferait pas?
Pour deux raisons. D'abord, la NBA, ça a mal commencé, là, dans la mesure où les camps d'entraînement, il y a eu énormément de cas. Dans le moment, ça va bien, tant mieux, touchons du bois, puis souhaitons que ça continue. Mais la grosse différence, c'est que quand la NFL le fait, quand le baseball le fait, on était en été. Les deux ont amorcé leur saison en été, comme la Ligue nationale de hockey quand elle a repris la saison, la dernière saison. On était au mois d'août. Alors, au mois d'août, en été, les gens sont dehors. Le virus, on le sait, là, il se transmet de façon beaucoup moins répandue. Alors là, aujourd'hui, là, on est dans le pire. On est en dedans, il fait froid. C'est l'hiver dans la majeure partie c'est l'hiver partout, mais dans le nord, évidemment, c'est un hiver et on reste en dedans. C'est peut-être différent en Floride, là, mais c'est pas le cas chez nous et dans bien des villes. Alors, il y a un risque, évidemment, parce que là, on n'est pas du tout dans la même situation. Quand le baseball a commencé, quand la NFL a commencé, il n'y avait pas 4000 personnes qui mouraient par jour aux États-Unis.
Non, clairement. Sauf que la NBA a débuté le 25 décembre.
Oui, la NFL, dans le moment, la NBA, dans le moment, ça va correctement. Alors, on va voir, mais moi, je trouve qu'eux aussi, ils prennent des risques.
Guillaume, je veux savoir, Guillaume Lefrançois de la presse, et je vous rappelle, là, ce que vous entendez, là, c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans le balado sortie de zone. Et là, vous avez du côté de la presse, Philippe Quentin est là, Guillaume Lefrançois sera là. Il y aura également Alexandre Pratt qui fera un tour, Simon-Olivier Lorange également exact. Qui fait ça. Du côté de nous, du 98.5, Jérémy, tu seras l'animateur. Mario Langlois viendra faire son tour. Moi, je serai là. Martin Lemay aussi pourra venir faire son tour à l'occasion. Exact. Donc, ça vous donne un peu à quoi va ressembler cette brochette. Benoît Brunet qui pourrait, à l'occasion, venir faire un tour. Ça vous donne un peu l'étendue de cette brochette qui sera là pour parler des activités du Canadien, mais sortir un petit peu plus large. Je reviens à Guillaume Lefrançois. Guillaume, est-ce que tu crois que c'est une bonne chose que la Ligue nationale de hockey ait décidé de pousser et d'avoir quand même une saison de 56 matchs débutant le 13 janvier?
Ben, moi, mon impression, c'est que ce besoin-là, cette obsession-là a commencé. C'est à peu près entièrement lié aux télédiffuseurs de la Ligue nationale, qui sont les premiers et principaux partenaires de la Ligue. La Ligue veut d'abord, bien sûr, satisfaire les télédiffuseurs, honorer son contrat, et aussi écouler le contrat, parce que actuellement, la Ligue nationale a un très mauvais contrat de télévision. Quand je dis très mauvais, je veux dire c'est un contrat de télévision aux États-Unis qui rapporte pas grand-chose, qui rapporte des peanuts. Et finalement, plus vite ce contrat-là sera écoulé, bien, plus vite la LNH va pouvoir en négocier un nouveau et augmenter ses revenus et compenser pour les énormes pertes de la dernière année. Donc, je pense que l'obsession vient de là, mais c'est une obsession qui, comme Phil l'a très bien expliqué, c'est une obsession qui est peut-être pas nécessairement en phase avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc, c'est quand même particulier. Je veux dire, oui, la LNH fait des efforts, les équipes font des efforts pour vraiment faire ça, avec le moins de propagation possible, puis en demandant aux joueurs de s'isoler, tout ça. Mais ça reste que ça me semble irréaliste de penser que rendu à la fin, que rendu au mois de mai, tout le monde va avoir joué ses 56 matchs à la date prévue sans amicrosse ou rien.
Ben c'est drôle, hein? Moi les gars, tu sais, je nous entends parler, j'imagine un partisan du Canadien dans son auto, à la maison, au boulot, peut-être, qui fait « Qu'est-ce qu'ils disent là, eux autres? Moi, je suis bien content, ça va être du hockey dans ma TV, ben, dans ma radio, je vais être bien heureux de ça, pendant qu'il y aura un confinement, moi, je vais écouter du hockey. » Honnêtement, ça fait plaisir aux partisans.
Non, mais écoute, il faut comprendre que ces ligues là, c'est pas comme nous autres, vous et moi, là, dans la rue. Là, il y a un protocole à respecter. Les gars sont testés aux 24 heures. Tu sais, les gens qui nous disent « Ah, mais c'est... » Tu sais, vraiment, on fait une exception pour les joueurs de hockey, puis tout ça. Est-ce que ça vous tente, vous, de vous faire mettre le fameux Q-tip dans le nez à tous les 24 heures pour vérifier si vous l'avez? Je pense que non. Donc, on fait quand même des efforts. Il y a des médecins. Et c'est pour ça que toutes les ligues qui ont repris ont toutes trouvé le moyen, à un certain moment donné, de se rendre jusqu'au bout, parce que sont quand même encadrés, sont entourés. C'est pas la même chose que le monsieur, madame, tout le monde. Donc, moi, je suis content que le hockey revienne. Puis, vous allez voir, là, les autres ligues vont faire pareil. Là, la MLS, je sais pas si vous avez vu la proposition qu'ils ont faite aux joueurs. Ils ont pas l'intention de niaiser longtemps, les autres non plus. Là. Ils vont vouloir que ça recommence. Et en plus, les instances gouvernementales nous donnent des indications qui sont contradictoires. Durant l'été, alors qu'on était au bas de la vague, il y en avait presque pas de cas. Il y avait personne dans les estrades. Là, on est rendu avec 4000 morts aux États-Unis. Il y a du monde dans les estrades. L'Impact a fait des confinements de 14 jours en plein été, alors qu'il n'y avait pas de cas à leur retour d'Orlando. Là, les joueurs du Canadien, le gars arrive 7 jours plus tard, il a sa patinoire, il n'y a pas de quarantaine. Ah, ça va être correct, là, 7 jours, ça va passer. Fait que, tu sais, c'est sûr que les gens ont de la misère à se retrouver là-dedans, mais ils sont contents que le sport reprenne.
Mais Philippe, de voir que le gouvernement, puis souvenez-vous de cette question de Sébastien Bovet de Radio-Canada qui demande au premier ministre François Legault, hey, les millionnaires, eux autres, là, ils vont faire ça durant que tout le monde va être confiné à maison. François Legault dit le budget, là, c'est des gens, le protocole est mis en place. Je sais pas, les gars, puis je suis convaincu que vous l'avez eu dans votre courriel. Avez-vous vu le protocole de la Ligue nationale de hockey pour la COVID-19, le protocole pour les voyages? Puis c'est un épais
document. Document.
Oh, très lourd document. Écoute, à quelque part, l'infrastructure est là, par contre, Philippe.
Ben oui, l'infrastructure est là, mais il en reste pas moins que les joueurs, ils sont pas dans une bulle, là. Ils vont retourner dans leur famille après l'entraînement, là. Alors, ils vont côtoyer des gens qui auront côtoyé. Là, je comprends que dans les prochains jours, ça va être plus difficile. Les écoles vont être fermées et tout. Mais bon, il y a quand même des gens qui vont se rendre travailler, puis ils vont continuer d'avoir des contacts dans la journée. Alors, le risque est là. Cela dit, les gouvernements, tu sais, à l'époque, là, Robert Bourassa, quand il était premier ministre du Québec, il disait que quand il y avait vraiment une mauvaise nouvelle à annoncer aux Québécois, là, il espérait toujours le faire pendant que le Canadien était en séries éliminatoires de la Coupe Stanley, parce que ça allait passer un peu inaperçu. Ce serait pas le sujet numéro un autour du café le matin. Et à l'heure actuelle, c'est sûr que si t'es premier ministre du Québec ou premier ministre de l'Ontario, tu souhaites qu'il y ait du hockey, parce que tu souhaites que les gens puissent se détendre un peu. Là, c'est dur, là, surtout au Québec, là, où on va commencer un couvre-feu. Alors, si t'es François Legault, tu dis, ben oui, jouez au hockey, allez-y. Mais bon, cela dit, dire que c'est clair qu'il y a des risques quand même qui sont là, puis on va voir comment la Ligue nationale va composer avec tout ça, mais il y aura certainement d'autres équipes de toucher. Je pense que ce qu'on va voir éventuellement, moi, j'ai l'impression, puis c'est déjà commencé dans le sport olympique, là, avec Richard Pound, vous avez vu au cours des derniers jours, Pound a commencé à dire que les athlètes olympiques qui représenteront le Canada au prochain jeu devraient être vaccinés en priorité, en disant les gens vont accepter ça, que 300 ou 400 athlètes soient vaccinés pour qu'on puisse tenir des Jeux olympiques, puis éventuellement, évidemment, ils souhaiteraient que ce soit la même chose dans tous les pays du monde. Moi, je m'attends à ce que la Ligue nationale de hockey va commencer bientôt un lobbying comme celui-là, comme un peu dans tous les sports, parce que si le vaccin arrive, c'est sûr que là, ça va être beaucoup plus simple de disputer des saisons avec plus de sûreté, là, de pouvoir la compléter.
Ça tombe un peu dans l'éthique.
Mais c'est la même chose quand on a eu les tests au début. Ouais. On disait, ah, ben là, les joueurs vont avoir accès aux tests plus rapidement. Finalement, les tests, là, on les a, il n'y en a pas de problème. Puis il n'y a personne qui chiale parce que les joueurs sont testés à tous les jours. Donc, je pense qu'éventuellement, ça va être la même chose pour le vaccin.
Hey, messieurs, savez-vous quoi? Avec tout ça, là, on n'a pas parlé encore de hockey. C'est quand même assez exceptionnel. On va s'arrêter, on va faire une très courte pause. Pour retour, on va parler un petit brin de hockey. On est avec la gang de la balado Sortie de zone, l'association entre la presse et Cogeco Média. Ça commence lundi, donc le premier balado sera là. Jérémy Filosa, qui est l'animateur pour cette nouvelle saison. Philippe Quentin, Guillaume Lefrançois sont là. Messieurs, je vais y aller. Vous savez, on a passé tout récemment à TVA Sport des soirées vintage, où on montrait les anciens matchs du Canadien. Donc, je vais y aller avec une question vintage. Et je commence avec Guillaume Lefrançois qui doit répondre pour débuter. Puis, Guillaume, le Canadien va-tu faire des séries?
C'est parfait comme question. C'est très vintage. Puis, ben oui, je pour la première fois depuis plusieurs années, je vais te répondre oui. Ça fait drôle de le dire, mais on est rendu là, mais je vais regarder. Je pense que c'est assez clair aux yeux de tout le monde là, que Marc Bergevin a quand même ajouté du talent, ajouté de la profondeur à son équipe. Ça reste par contre que c'est une division qui est très, très dure à prévoir, je trouve, la division Nord. Je trouve que, à mon avis, Toronto a une petite coche sur les autres équipes, mais derrière Toronto, entre les positions 2 et 6, je pense que, tu sais, Toronto a une coche sur tout le monde. Je pense qu'Ottawa va finir dernier, mais ne sera pas aussi faible que ce que les gens le croient. Mais en dehors de ces deux certitudes-là, je trouve que de 2 à 6, ça peut vraiment aller dans toutes les directions. Sauf que je crois que le Canadien, particulièrement avec les améliorations faites devant le filet et avec le fait qu'on pourra justement ménager Carey Price, je pense que le Canadien devrait pas trop avoir de misère à se qualifier pour les séries.
Ton côté, Jérémy?
Écoute, ça va être une saison tellement spéciale et particulière parce que je pense qu'on gérera pas ça comme d'habitude. Faut pas s'attendre à ce que le Canadien habille les mêmes 20 joueurs match après match puis dise, ah ben, eux autres, c'est nos meilleurs. Tu vas avoir des gars qui vont avoir besoin de repos là-dedans. Ils vont avoir beaucoup de voyagements. Puis si tu veux te donner une chance de faire quelque chose qui a de l'allure, va falloir que tu fasses une certaine rotation dans ton effectif. Va falloir que tu gardes les gars frais parce que j'ai comme l'impression que cette division-là, il va avoir tellement de circulation, tellement de voyages que les gars vont être fatigués rendus à la fin de l'année. Peu importe que ce soit Vancouver, Edmonton, Montréal ou quoi que ce soit. Donc ça va être super intéressant. Mais écoute, ça fait tellement du bien. Puis ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas parlé de même. Mais j'ai mon fils, là, il est excité pour le début de la saison.
Ah, il a hâte.
Il a hâte, là. Tu sais, puis ça faisait quand même 3-4 ans que je sentais qu'il n'y avait pas le même feu. T'sais. Fait que je sens ça à Montréal. Puis de voir que l'équipe, pour la première fois depuis longtemps, a investi jusqu'au maximum de ses capacités Puis j'entends pas des gens dire chez le Canadien, on va essayer de se battre pour faire les séries. J'entends des gens dire, on veut faire quelque chose de spécial cette année. C'est incroyable comment ça fait du bien. Oh, ça devrait être de même à toutes les années. Mais on le sait que ça n'a pas été le cas.
Philippe, est-ce que le Canadien terminera premier de la division Scotia? On n'en a pas parlé de ça. Non,
mais non, ouais. Ça, c'est une autre question. Moi, je vais continuer de l'appeler la division Nord. Ouais, ça ne te dérange pas.
Ben non.
Premier, certainement pas. Je pense que ça va être assez difficile de participer aux séries. Je pense pas que c'est impossible. Je pense que le Canadien pourrait peut-être se tailler, se faufiler pour une quatrième place. Je suis moins
attends,
optimiste
attends, Philippe,
que d'autres.
Quatrième. Attends.
Ouais. Ben peut-être, ouais, en étant, ouais. Tu sais, c'est une équipe là, faut pas oublier une chose, c'est une équipe, je comprends qu'il y a eu des changements, mais les gros piliers là, Weber, Price, là, c'est des gars qui ont été incapables de donner à cette équipe là une victoire en séries éliminatoires là depuis 2015, c'est depuis 2015 que le Canadien gagne pas une ronde en série. Weber est arrivé un peu après, il y a pas eu vraiment de succès collectif depuis que Weber est là.
Mais là on parle pas de série, on parle de saison régulière.
Oui, mais il faut que tu te rendes en série.
T'as raison, mais le Canadien face aux équipes canadiennes l'année passée en 15 matchs, c'est 10 victoires, 3 défaites et 2 défaites en bris d'égalité. Ça, c'est 22 points sur 30.
Mais c'était l'an dernier. On va voir ce qui va arriver cette année. C'est pas une équipe dont les stars sont jeunes. Les stars en devenir sont jeunes, mais ce sont des stars en devenir, justement. Ça va peut-être prendre encore 2 ans, 3 ans avant qu'ils soient vraiment des joueurs, là, des têtes d'affiche dans la Ligue nationale. Je pense bien sûr aux deux jeunes, là, Suzuki et Kotkaniemi. Mais ce que je trouve aussi, c'est que dans toutes les équipes de hockey, ça prend du temps à trouver une façon de travailler ensemble, de jouer ensemble. Et là, comment ça va se faire chez les Canadiens? Il y a beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux joueurs. Comment ça va fonctionner, là, cette fameuse chimie, là, les trios, puis comment les uns vont jouer avec les autres? C'est sûr qu'au début, tout le monde est enthousiaste, mais on le sait, c'est long de prendre des individus puis former une équipe. Et croire que le Canadien, comme par magie, va faire ça en 10 jours de camp d'entraînement, puis qu'il va arriver au début de saison, puis va être parfait, va rôder ça, moi, je suis pas convaincu. Cela dit, et là-dessus, je rejoins Guillaume, même si je suis un petit peu moins optimiste que lui, je pense que la grosse addition pour le Canadien cette saison, c'est Jake Allen. Pourquoi? Parce que, comme Jérémy l'a dit aussi, il y aura tellement de voyages, ça va être fatigant, ça te prend absolument 2 bons gardiens, et là, il faut le dire, le Canadien a un superstar devant le filet avec Carey Price, et un gars qui est un excellent numéro 1 avec bien d'autres équipes. Alors ça, je pense que c'est un gros plus pour le
Guillaume,
Canadien.
Guillaume, on t'a entendu trépigner au bout de ton téléphone, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben, j'allais simplement ajouter la question que Phil mentionnait, que ça prend du temps pour former une équipe. Effectivement, le Canadien devra intégrer beaucoup de nouveaux, mais c'est le cas ailleurs aussi. Je veux dire, les sénateurs d'Ottawa ont vraiment ajouté, ont dû compléter leur équipe avec plusieurs joueurs autonomes. Les Maple Leafs de Toronto, la moitié de la défense va être nouvelle. Calgary et Edmonton ont également fait du mouvement de personnel.
Guillaume, je vais t'interrompre juste un instant parce que j'ai les additions de tous les clubs. Fait que on va les faire rapidement. Ok, Toronto, Wayne Simmonds, Joe Thornton, T.J. Brody, Bogosian, entre autres. Pour les sénateurs d'Ottawa, Dadonov, Watson, Galchenyuk, Murray, Stephen, Pocket. Pour Vancouver, Nate Schmidt, Olby. Pour Calgary, Mark Strom, gardien de but. Ça va faire une différence. Pour les Oilers, Tyson Barry, Jesse Puljujärvi. Et pour Winnipeg, on parle de Paul Stastny et Nate Thompson. Donc, voilà les principales acquisitions des différentes équipes canadiennes.
Pas de mauvaise équipe, le Winnipeg. Là. Je trouve que, tu sais, souvent, quand on parle de Toronto, Edmonton, Montréal, Winnipeg a tout un club encore.
Moi, c'est Ottawa, honnêtement. Je pense qu'Ottawa va brouiller plusieurs cartes, j'en suis convaincu.
Ben, écoute, les experts, tout le monde les met derniers. Mais...
De la misère à croire qu'ils vont perdre tous les matchs. Ça va être... Hey, savez-vous quoi, l'an passé, là, contre le Canadien? Le Canadien a 3 victoires, 1 défaite en bris d'égalité. Mais sur les 4 matchs, il y en a 3 qui sont en prolongation. Mm-hmm. Ce club-là, à la nulle part, là.
C'est ça, exact. Ben, je pense quand même que c'est la moins bonne équipe des 7 équipes canadiennes, mais ils finiront pas non plus avec 10 victoires en 56 matchs. Je pense que ça va être une dernière place quand même honorable. Ils sont un peu faibles en défense, mais à l'avant, il y a tellement de talents qui arrivent, tellement de jeunes talents qui arrivent à l'avant que je pense qu'ils vont être quand même capables de justement de surprendre du monde. Puis ils ont Matt Murray quand même pour peut-être un petit peu stabiliser la défense qui est un petit peu louche, là.
Messieurs, quand l'entraîneur-chef Claude Julien arrive avec la phrase qui est passée quasi, je dirais pas inaperçue, mais j'ai l'impression que s'il avait dit cette phrase-là, voilà 2 ans, on aurait été en émission spéciale pendant au moins 72 heures. Lorsqu'il dit, je vois pas pourquoi qu'on peut pas aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça signifie jusqu'à la Coupe Stanley.
Ouais.
Ça, sincèrement, messieurs, je vais vous entendre là-dessus, puis je vais le faire à tour de rôle. Philo, je veux t'entendre après.
Moi, j'ai été surpris d'entendre ça, même si c'est ça qu'on espère, puis c'est ça qu'on veut entendre. Mais Claude Julien, on va se le dire, les gars, là, c'est le gars qui est présentement dans la situation la plus ou qui a le plus de pression. Si le Canadien connaît pas un bon début de saison, là, Claude Julien, je suis désolé, mais il risque de sauter.
Ah, moi, je pense pas. Pas avant la fin de la saison.
Ça peut être la fin de la saison, mais moi, je pense que Claude Julien joue gros cette année. Et les éléments sont là. Pendant longtemps, ça a été Marc Bergevin qui a été sur le siège éjectable. Pas le siège éjectable, mais disons, tu sais, qui a été sous pression, qui a été mis sous pression par les partisans. Jeff Molson aussi. Mais là, c'est plus là, là. Là, c'est rendu sur Claude Julien. Ce club-là, faut qu'il gagne. Là. Faut qu'il gagne cette année. Donc, j'ai été surpris de l'entendre parler de même.
Philippe, tu vois pas pourquoi, quand il dit « je vois pas pourquoi qu'on irait pas jusqu'au bout », t'as réagi comment?
Je suis étonné d'entendre un dirigeant du Canadien dire une chose comme celle-là, même si j'aime ça beaucoup, parce que moi, je trouve qu'un des plus grands problèmes du Canadien, et ça dure depuis plusieurs années, c'est de tout le temps avoir des attentes basses, à tout le moins dans le discours public. Et ça vient un peu déprimant pour les gens, parce qu'en début de saison, là, on nous dit tout le monde, c'est tellement difficile, puis peut-être qu'on va réussir à faire les séries, puis là, peut-être que tout va arriver parce qu'on a Carey, mais c'est tellement difficile de faire une grosse transaction, puis c'est tellement difficile de gérer le plafond salarial. Puis c'est tellement difficile de ci, puis c'est tellement difficile de ça. Ça fait des années qu'on entend ça. Moi, je suis plus capable.
Philippe, il dit, c'est pas facile.
C'est pas facile, c'est ça. Alors, tu sais, que là, qu'il commence à avoir des attentes un peu plus élevées. Tu sais, moi, des fois, j'écoutais la direction du Canadien depuis plusieurs années. Je me disais, dans quelle autre entreprise on accepterait ça? Une entreprise médiatique, par exemple, où le patron dira, les codes d'écoute, améliorer ça, ça va être difficile. Les autres sont bons. Voyons donc, il faut que tu regardes de l'avant, puis tu dis, hey, on va être meilleur que les autres, puis on va foncer. C'est de même que ça fonctionne dans tous les domaines. La vente, les avocats, n'importe qui, c'est comme ça qu'il faut que tu abordes et ton travail, puis il faut que tu prennes le défi, puis que tu l'acceptes. Puis je trouve que chez le Canadien, on a tout le temps géré ça à la baisse. Alors, cette année, le discours change. On l'a vu avec le point de presse de Marc Bergevin, là, c'était dimanche dernier, je pense, et qui a dit, tu sais, bon, il était certainement plus optimiste qu'on l'a jamais entendu, et là, avec le propos de Claude Julien. Alors, moi, j'applaudis. Cela dit, évidemment, ça remet plus de pression, parce que si jamais ça vire mal, ben là, il va y avoir des explications à donner. Mais je trouve ça le fun d'entendre ça.
Guillaume, de ton côté?
Je partage l'avis de Phil là-dessus. Effectivement, ça fait du bien d'entendre Marc Bergevin montrer un peu d'ambition, même si ce qu'il dit devant les médias puis ce qu'il dit à son équipe, ça peut être deux choses complètement différentes. Ça reste que enfin l'entendre pousser un message comme ça, ça fait du bien. De toute façon, moi là-dessus, ma position va toujours être la même. J'ai aucun problème à ce que Marc Bergevin et l'état-major du Canadien moussent les attentes pour l'équipe actuelle. Là où j'ai un petit peu de problème, par exemple, puis on l'a vu souvent cet automne, c'est quand on mousse les attentes à l'égard des jeunes. Si tu fais grimper les attentes comme il faut en ce moment sur des joueurs de hockey de 25-30 ans qui sont établis dans la Ligue nationale, j'ai aucun problème avec ça. C'est des professionnels, c'est des adultes. Ça fait partie de leur travail. Par contre, ils ont tellement vanté Alexander Romanov. Ils ont beaucoup vanté Mathias Norlinder en Europe. Beaucoup d'espoirs comme ça qui n'ont pas encore joué un seul match dans la Ligue nationale.
Caulfield?
Plus de misère qu'un Cole Caulfield aussi, exact. Donc, ça, j'ai un petit peu plus de misère, par contre.
Ouais. Mais Guillaume, donc, je vais t'interrompre un instant. Je veux juste dire, tu sais, Romanov est quand même, là, je vais utiliser le terme caché, là, mais il est quand même caché sa troisième paire de défenseurs, ce qui est moins pire. Les deux qui sont exposés, à mon avis, c'est Suzuki et Keke. Eux, là, sincèrement, ils ont une grosse mission, là. Parce que t'as Dano, exact. Suzuki, Keke, puis tu dis que t'as un club que tu vas aller jusqu'au bout. Excuse-moi, mais il faut que les jeunes marchent, parce que sinon, ça marchera pas pantoute, là.
Oui, en plein ça, puis en plus Dano, on peut en parler pour cette année, puis on peut en parler plus long terme aussi, c'est-à-dire s'il revient pas, ben là, Suzuki et Kotkaniemi vont avoir un encore plus gros rôle à occuper. Donc oui, effectivement, c'est un très bon point à souligner ça aussi. S'il fallait que Dano se blesse ou du moins qu'un de ces trois centres-là se blesse aussi, ça pose d'autres questions. Le gars derrière Suzuki et Kotkaniemi, c'est Jake Evans, qui est une recrue lui aussi. Donc c'est sûr que là, oui, il y a des petits enjeux à soulever là aussi.
Bon, ben messieurs, écoutez, le temps file rapidement. Il nous reste à peine 2 minutes. Je vais terminer ça avec il y a tellement d'enthousiasme présentement qui quand on regarde l'alignement du Canadien, tout le monde pense que ce club-là va aller loin. J'entendais Guillaume Latendresse hier dire « Avez-vous un point d'interrogation? » Puis à tour de rôle, je vais vous entendre si vous avez un point d'interrogation. Jérémy, est-ce que toi, il y a un point d'interrogation qui te vient en tête quand tu vois l'alignement, tu te dis « Ça, ça peut être problématique. »
Ben, écoute, c'est sûr que il va falloir que tu sois un peu chanceux aussi cette année. T'sais, il y a des clubs qui vont subir des blessures. Il y a des clubs qui vont avoir des cas de COVID. Il va y avoir toutes sortes de surprises. Mais on ne sait pas sur qui ça va tomber. Moi, ça me fait peur de voir qu'on a un mini camp d'entraînement de 10 jours. Puis après ça, il va falloir que tu mettes la pédale dans le fond. Puis on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Moi, j'ai confiance. J'ai pas vraiment un gros point d'interrogation majeur. La seule chose, c'est que parfois, un entraîneur peut tomber en amour avec une formule. T'sais, on ne change pas une formule gagnante. Ouais. Cette année, il va faire attention à ça. Parce que c'est pas parce que tu as gagné avec cette équipe-là aujourd'hui que tu vas rembarquer sa patinoire demain.
Mais le nombre de joueurs qui n'auront pas le choix de changer des joueurs. Philippe, est-ce que tu as un point d'interrogation?
En deux mots, je trouve qu'il y a un manque de mobilité un petit peu en défense là, avec Weber et Edmondson. Puis je trouve, comme Guillaume l'a mentionné, que c'est beaucoup, beaucoup de pression sur deux jeunes joueurs de centre, dont un, Kotkaniemi, était pas capable de participer à l'équipe de l'an dernier. On l'a envoyé à Laval, puis il a joué quelques bons matchs dans le tournoi éliminatoire. De là à croire qu'il va devenir un joueur d'impact cette année, on verra. Okay. Mais il y a un doute.
Et Guillaume, de ton côté, point d'interrogation?
Oui, ben la défense poids lourd, effectivement, c'est une très, très grosse défense. Oui, ça peut avoir ses mérites. Oui, Ben Sherratt patine bien pour sa grosseur, mais il y aura peut-être des limites à ça. Ça sera pas la défense la plus mobile. Donc, moi, c'est un petit peu là. Romanov, par contre, si Romanov est capable de jouer vraiment à temps plein des bonnes minutes, ça va donner un bon coup de main là-dessus, par contre, parce que c'est un très, très bon patineur.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de matchs contre les Pingouins et Tampa Bay. Ben, vous allez me dire, il y a beaucoup de Connor McDavid. Peut-être que oui, ça peut être très, très difficile. Bon, mais les gars, ça lance le tout parce que ça sera lundi la première balado sortie de zone, collaboration de la presse et Cogeco Média. Philippe Quentin, un gros merci. On te retrouve lundi. Merci d'avoir été là, Philippe.
Salut, Jérémy. Merci.
Merci, au revoir. Guillaume Lefrançois, merci d'avoir été avec nous.
Salut, merci, Jérémy.
Merci, au revoir. Et Philo, toi, on t'écoute dès lundi. Donc, voilà. Tu seras à l'animation de tout ça. Un gros merci d'avoir été.
Ça fait plaisir.
Merci. Salut.